Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre nouvelle série intitulée « Il ce n'est pas à être triste de vieillir » ou si vous voulez, « Vieillir n'a pas vraiment à être une chose triste ». Nous arrivons à l'étude numéro 2. Le titre de notre étude commence par « Lâcher prise ». La nécessité d'accepter, on peut dire, tout cela s'ajoute à celle de lâcher prise. Il faut pouvoir s'accepter. Et ainsi, on peut lâcher prise. L'âge nous exhorte à nous y entraîner. Notre vie entière est un perpétuel lâcher prise, à commencer par notre enfance et notre jeunesse, auxquelles nous ne pouvons nous accrocher. Afin d'évoluer et de nous renouveler, il nous faut en permanence nous défaire de ce qui est ancien. Avec l'âge, le processus devient de plus en plus manifeste et souvent même douloureux. Nous devons donc abandonner notre vie professionnelle et cesser de nous identifier à elle. S'agissant de nos forces physiques, nous sommes également contraints de lâcher du lest. Nous ne pouvons plus marcher comme autrefois. Surtout, c'est mon cas, à 90 ans, avec le canal lombaire coincé, trop étroit. Travailler et agir autant et aussi vite qu'autrefois, eh bien ça, nous devons apprendre à l'oublier. Enfin, les gens avec qui nous avons vécu et dont nous nous sentons proches, commence à s'éloigner de nous. Ils mettent de la distance. En vieillissant, nous ne parvenons pas à lâcher prise. Et si nous ne le faisons pas, si nous avons commencé à nous y exercer dès notre jeunesse et à l'âge adulte, eh bien on aura de la peine à y arriver. Voyez-vous, à la fin de son évangile, Saint Jean, il raconte comment Jésus enjoint à l'apôtre Pierre, il recommande à l'apôtre Pierre de renoncer à tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Jésus dit à Pierre, « en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même la ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, alors là, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais peut-être pas. » Saint Jean chapitre 21 verset 18. J'ai pris cela dans la version allemande, mais c'est pareil chez vous. Donc, chers amis, manifestement, l'apôtre Pierre est très impulsif. Saint Jean n'a cessé de le décrire ainsi. Il est le premier à répondre à la question de Jésus « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Jean, chapitre 6, verset 67. Il est aussi celui qui refuse que Jésus lui lave les pieds. Mais lorsque Jésus le persuade de la nécessité du geste, il répond aussitôt d'un ton exalté, « Seigneur, mais voyons, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Saint Jean, chapitre 13, verset 9. Cet homme, si plein de vigueur, doit, en vieillissant, renoncer à sa volonté propre. Désormais, il ne peut plus agir comme il l'entend de la façon qui lui a jusqu'alors paru juste. Il doit donc étendre les mains et se laisser faire. Un autre le scindra et le mènera où il ne veut pas aller, où il n'aimerait pas aller. Personne n'a envie de se laisser emporter vers la mort. La vieillesse, pourtant, nous invite à nous déprendre de notre conception de la vie et à accepter ce que Dieu exige de nous, notre propre mort. Celle-ci se produit par étapes. Nous devons d'abord nous défaire de notre volonté propre, puis de notre action, de nous-mêmes, enfin de la vie. L'apôtre Pierre voudrait au moins s'enquérir du sort des autres. Aussi demande-t-il à Jésus ce qu'il advient du disciple aimé de lui. Mais Jésus lui répond, Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela t'importe? Mais toi, suis-moi. Saint Jean 21, verset 22. L'apôtre Pierre doit renoncer à la comparaison. Il doit donc s'engager dans le chemin que Dieu lui a prescrit sans chercher à savoir si les autres vivent plus longtemps que lui. Et il ne doit pas non plus comparer sa mort que Dieu lui impose sur la croix à celle des autres. Il ne faut jamais se comparer. Chacun meurt à sa façon et nul ne peut savoir avec certitude comment il mourra. Que croyez-vous? Il y a aussi des chrétiens dans les guerres actuelles. Il y en a qui ont des familles et qui meurent sur le champ de bataille. En partant, nous devons nous détacher de notre mort et nous en remettre totalement à Dieu. Les gens âgés doivent se déprendre d'un nombre grandissant de choses, ce qui est évidemment un processus parfois assez douloureux. Quand meurt une personne avec laquelle nous avons vécu beaucoup de choses, avec laquelle nous avons partagé des joies et des peines, elle emporte toujours un peu de nous dans le royaume de Dieu. À chaque nouvelle disparition d'un proche, grandit cette part de nous-mêmes qui a déjà franchi le seuil de la mort. Les gens âgés ont souvent le sentiment qu'une part importante d'eux-mêmes se trouve au-delà de ce seuil. Beaucoup de choses dont s'émeuvent, on peut s'émouvoir, et certains, il y a de quoi, leur paraissent sans importance, car au fond, au très fond de leur être, ils ont déjà rejoint l'autre monde. Aussi leur regard se tourne-t-il toujours plus vers l'intérieur. Ça devient de plus en plus important. Et bien souvent, nous pensons déchoir en renonçant à notre travail, à notre vitalité, nos missions et nos différentes importances. Le taoïsme, par exemple, transmet une parabole qui nous enseigne ceci. Notre véritable valeur se fait jour après que nous avons pris congé de toutes les valeurs apparentes. Cette parabole relate l'histoire d'un charpentier et de son apprenti, lequel s'étonna à la vue d'un vieux chêne gigantesque et noueux. Le charpentier dit à son apprenti, « Sais-tu pourquoi cet arbre est si gigantesque et si vieux ?» L'apprenti dit, « Eh bien non. Pourquoi ?» Le charpentier lui répond, « Vois-tu, parce que, comme il est là, il est en quelque sorte inutile. Car s'il était utile, on l'aurait depuis longtemps abattu, scié et utilisé pour la fabrication de lits et de tables de divers meubles. Mais comme il ne sert à rien, on l'a laissé pousser. Et c'est pourquoi il est tellement grand à présent et que l'on peut se reposer dans son ombre. Si ce chêne a pu librement croître en direction de la lumière, invitant les hommes à trouver le repos dans son ombre, c'est parce que le seul fait d'être un arbre constituait toute sa valeur. Lorsque nous nous déprenons de nos qualités apparentes, nous faisons l'expérience de notre véritable valeur. Notre véritable valeur, laquelle réside tout simplement dans notre nature humaine. C'est alors que notre existence devient féconde. D'autres viendront se reposer auprès de nous et devineront que simplement là, c'est là, nous ne voulons plus rien. Nous ne pouvons aussi plus rien. Pour pouvoir me défaire d'une chose, je dois donc l'avoir acceptée. Je ne peux me détacher de ma vie que si je l'ai aimée, que si je l'ai véritablement vécue. Selon Carl Gustav Jung, seul celui qui, une fois, a dépassé la première moitié de son existence est disposé à mourir, alors il demeure réellement vivant. Jung a observé que ceux-là même qui n'ont jamais appris à se battre dans leur jeunesse sont incapables à un âge avancé de lâcher prise et refusent d'accepter la vie telle qu'elle est. Le combat et la lutte, éléments constitutifs de la première moitié de l'existence, tout cela cède la place au détachement. Or, celui qui n'a pas véritablement vécu, il ou elle ne possède rien dont il puisse se détacher. Quand il ou elle prend de l'âge, les regrets l'assaillent, l'empêchent d'accomplir cette mission fondamentale de la vieillesse. Jung décrit ainsi les vieux et les jeunes qui gâchent leur existence parce qu'ils ne s'adaptent pas aux missions respectives de leur âge. Un jeune qui ne se bat pas et qui ne triomphe pas, laisse échapper le meilleur de sa jeunesse. Un vieux qui ne sait prêter l'oreille aux secrets que les ruisseaux depuis les sommets murmurent jusque dans les vallées est insensé, car c'est un esprit momifié, un passé, on peut dire pétrifié, se tenant à l'écart de sa vie, eh bien, il se répète tel une machine, ou comme une machine. Que dire, chers amis, d'une civilisation qui a besoin de tels fantômes? Hermann Hesse a compris que lâcher prise avec l'âge participe de la nature humaine. Il compare le vieil homme à une feuille fanée qui regagne sa demeure en ondoyant au gré du vent. Qui consent à lâcher prise s'emplit d'une légèreté totalement nouvelle. Il se sent tel la feuille que le vent porte jusque dans sa demeure. Voyez-vous, lâcher prise, selon Hermann Hesse, signifie également se débarrasser de soi ou encore peut-être même se sacrifier. Eh oui, la jeunesse a besoin de pouvoir se prendre au sérieux. La vieillesse, elle a besoin de pouvoir se sacrifier, car ce qu'elle prend au sérieux la dépasse totalement. La jeunesse a pour mission, pour aspiration et pour devoir de devenir. L'homme mûr a pour mission de se débarrasser de lui-même, ou comme les mystiques allemands le disent jadis, il doit se défaire de son être. Défaire de son être, dans la conception de la mystique allemande, cela relève d'une mission spirituelle. Lâcher prise, selon elle, ne résulte pas d'une résignation toute simple, mais cela est de l'aspiration à s'unir maintenant à Dieu plus que jamais. Il est donc nécessaire de se dépouiller de soi si l'on veut se mêler à l'origine de la vie et former un tout avec notre Dieu. Je voudrais évoquer les différents domaines de notre existence qui exigent, quand vient le grand âge, que nous lâchions prise. Nous devons nous détacher de tous nos biens, de notre santé, et oui, c'est pas drôle, de nos relations, de la sexualité, du pouvoir, et enfin, même de nous-mêmes. Chers amis, il nous est pénible de voir des gens âgés se cramponner comme je ne sais pas quoi à leur richesse, tomber dans l'avarisme et répugner à se déprendre du moindre bien. Certains pensent qu'ils doivent surveiller leur fortune afin de léguer un plus gros héritage. Une chrétienne âgée, quant à elle, elle disait qu'il valait mieux donner d'une main vivante et chaleureuse que d'une main morte et froide. Il y a là une grande vérité. Si les vieillards sont rivés à leur bien, c'est souvent parce qu'ils ont perdu la notion d'eux-mêmes, parce qu'ils croient, pour ainsi dire, puiser dans leur richesse le sentiment d'être toujours en vie. Ils continuent à accumuler, épargner et amasser comme s'il pouvait ainsi écarter et étouffer toute idée de la fin, comme s'ils allaient vivre éternellement. Je me rappelle d'une dame d'un village qui était aidée par le social tellement que tout le monde pensait qu'elle était pauvre et misérable, car elle mangeait seulement une soupe avec du pain qu'elle recevait par des boulangers qui ne pouvaient plus le vendre. Et quand elle est morte, ils ont trouvé dans le matelas qu'ils ont voulu brûler, heureusement qu'ils ont pensé à l'ouvrir, c'était une idée qui était venue à l'un tout à fait par hasard, une illumination, parce qu'autrement le matelas aurait été brûlé. Eh bien, ils ont trouvé plus de 2 millions, et oui, plus de 2 millions cachés dans ce matelas. Voyez-vous, c'est quand même triste tout cela, non? Donc, j'ai dit que la plupart continuent à accumuler, à épargner et amasser, comme s'ils pouvaient ainsi écarter et étouffer toute idée de la fin, oui, un peu comme s'ils allaient vivre pour l'éternité. Or, donner ou rendre quoi que ce soit, eh bien, cela leur procure beaucoup de mal, pour ainsi dire, un mal presque physique, comme s'ils devaient se défaire d'une part d'eux-mêmes. Posséder pour eux, cela signifie vivre et être encore en vie. En amassant les biens, ils font en quelque sorte des réserves de vie, c'est ce qu'ils croient. Or, sachez, mes chers amis, que celui qui confond sa vie et ses biens mène une froide existence. Mais qui, en prenant de l'âge, est capable de se détacher de ses richesses, d'en faire don aux démunis ou de les léguer à des enfants, accède à la liberté d'âme et découvre un aspect essentiel, un aspect de sa nature humaine. Un psaume nous dit ceci. Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, quand s'accroît la gloire de sa maison, à sa mort, il n'en peut rien, absolument rien emporter, avec lui ne descend pas sa gloire. Psaume 49, versets 17 et 18. Donc, nous devons nous rappeler que notre mort est malheureusement, qu'on le veuille ou pas, inéluctable et qu'elle nous contraindra à nous défaire de la totalité de nos biens. Et c'est pourquoi il convient que nous nous exercions avant l'heure à ce que la mort exige de nous. En nous séparant intérieurement de nos richesses, nous parviendrons beaucoup plus facilement à nous abandonner à Dieu, de nous donner plus profondément, on peut dire avec plus de conviction et de zèle à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Qui grimpe trop à ses biens, dans le sens de sa grippée. Donc en français, qui s'agrippe beaucoup trop fortement à ses biens, eh bien en quelque sorte, il s'écrase violemment au sol, tôt ou tard. Seul qui s'en est libéré et à même de s'abîmer avec légèreté et douceur dans les mains aimantes du Très-Haut. Un frère chrétien raconte que son père, ayant atteint un âge avancé, s'est mis à faire des dons de certaines choses auxquelles il tenait pourtant beaucoup, cherchant ainsi à offrir aux personnes appropriées les livres, les diverses choses qui lui étaient chères. Ce vieux père sent manifestement, il sentait manifestement que lâcher prise le libérait en quelque sorte. En offrant ce qui lui était précieux, eh bien oui, il réjouit son prochain et lui témoigne son estime. En renonçant à ses biens, le vieil homme s'ouvre aux autres et établit avec eux un nouveau type de relation. À l'inverse, celui qui s'ensevelit sous ses biens est condamné à une solitude grandissante. Donc, se détacher également de sa santé et hélas, parfois même pour beaucoup d'entre nous, inévitable. Beaucoup assimilent leur santé à un bien et voudraient la conserver aussi longtemps que possible. Évidemment, on comprend. Il convient, bien entendu, de mener une existence saine et de prendre soin de sa santé. J'avais un voisin qui fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Il allumait la première cigarette le matin à 4 heures environ et il n'avait plus besoin d'allumette puisque avec la cigarette qui terminait, il rallumait la suivante. Mais il a très mal fini. Les 2 poumons étaient totalement détruits et il a fini sous cloche avec un appareil pour respirer comme dans un bunker. C'était triste à voir de mourir ainsi. Évidemment, je n'ai pas à critiquer, car je n'aime pas faire cela, mais cette personne, bien que je lui avais dit qu'il devrait plutôt s'approcher de Dieu et qu'il pourrait être délivré par Jésus-Christ de cette passion, je dirais même autre chose, de cette domination sous laquelle il vivait, eh bien non, ça entrait dans une oreille et ça sortait de l'autre. Oui, voyez-vous, certains s'acharnent à vouloir préserver leur santé, ce qui les conduit souvent à la peur maladive de tomber malade. La santé devient alors l'unique objet de leur pensée. On observe avec angoisse tous les symptômes de la vieillesse, on pense à chaque instant percevoir les signes avant-coureurs d'une éventuelle affection. À force de s'examiner soi-même du pied à la tête, on se croit plus avisé que les autres. Des réactions tout à fait normales deviennent suspectes. Le pouls, à présent on a des appareils qui contrôlent absolument tout de votre être. Tout, c'est pire que être dans un hôpital. Vous avez des appareils que vous branchez sur vous-même, qui sont ultra petits maintenant, sophistiqués, et qui contrôlent tout concernant votre santé. Mais malgré tout, un jour ou l'autre, même avec toutes ces gadgets, tous devront mourir un jour ou l'autre. Ils n'y échapperont jamais, malgré tous leurs gadgets. Et ce mode de vie prétendument sage cache la plupart des instants susceptibles de procurer quelque joie, un paradoxe dont on n'a pas même conscience. Celui qui fait de sa santé l'unique objet de ses pensées s'interdit toute joie de vivre. Il n'est plus même capable d'apprécier la nourriture, redoutant en permanence ses effets nuisibles. Dans le même temps, il sent au fond de lui que sa santé lui échappe malgré toutes ses précautions. S'acharnant à vouloir la conserver, alors il commence à sombrer dans l'angoisse. Pour un grand nombre de personnes âgées, la visite du médecin est la seule occasion de voir du monde et d'être écoutée. Beaucoup d'entre elles puisent dans la présence d'autrui un grand réconfort et aiment parler d'autre chose que de leur maladie, par exemple de politique, d'art, de questions philosophiques ou religieuses, autant de sujets qu'elles ne peuvent aborder que en laissant de côté, vraiment laisser de côté, leurs problèmes de santé. Nous devons donc nous préoccuper de notre corps, bien entendu. Mais tout cela avec mesure. Il ne faut pas devenir fanatique. Quel que soit notre acharnement en la matière, nous finissons, qu'on le veuille ou pas, par vieillir et par nous affaiblir. Voyez-vous, que croyez-vous qu'à l'âge de 90 ans bientôt, je puisse m'inscrire aux Jeux Olympiques prochains ou faire un marathon? Mais c'est absolument invraisemblable. Il faut oublier tout cela. C'est déjà bien beau si on peut être debout. Il importe alors de lâcher prise. L'époque actuelle a tendance à considérer la santé comme le bien suprême, la transformant parfois en ersatz de religion. Oui, c'est beaucoup plus important de s'occuper de notre carcasse périssable que de notre âme qui, elle, n'est pas périssable. Il faudrait penser un peu à cela. Érigeons en Dieu ce qui est limité. Ce culte de la santé dur et impitoyable finit par pétrir celui qui s'y adonne. La vieillesse nous invite à pénétrer les profondeurs de la nature humaine. Je ne peux y parvenir que en me détachant de ma santé et en me posant ces questions, qui suis-je véritablement? Ma santé était le seul critère d'après lequel ou d'après lequel je me définis. De quoi est constituée ma valeur intrinsèque, ma valeur la plus importante, celle qui se tapit au plus profond de moi? Lorsque mes forces m'abandonnent, lorsque tout cela se fait jour, et se fait jour l'image véritable et originelle que Dieu s'est faite de moi, je ne pourrai vivre une vieillesse calme et joyeuse que si Dieu est le véritable contenu et le but ultime de mon existence. Celui qui idolâtre sa santé est taraudé par la peur incessante de la voir disparaître, et j'ajoute totalement. Se décharger de ses relations, ça, c'est également très pénible. Pour beaucoup d'entre nous, c'est même une souffrance. En vieillissant, le cercle de nos connaissances se rétrécit, bien entendu. Des proches nous précèdent dans la mort. Nous livrons de plus en plus à notre solitude. Nos enfants, quant à eux, ne peuvent pas nous consacrer autant de temps que nous le souhaiterions. Nombreux sont ceux qui, en prenant de l'âge, craignent de voir l'être aimé disparaître avant eux, les abandonnant aux ruines d'une existence privée de toute sa substance. La perte d'un être cher dont nous avons des années durant partagé la vie est bien sûr très douloureuse, mais la vieillesse exige que nous puissions en nous-mêmes, nous puissions puiser, comme il faudrait le dire, en quelque sorte, un nouveau élan vital, pourquoi pas, au lieu de nous définir toujours par rapport aux autres. Donc, je pense que seul celui qui supporte la solitude peut voir en l'être aimé un don de la vie et jouir de sa présence. Lorsque je réfléchis à l'éventualité de perdre ce dernier, je suis donc contraint de me demander qui je suis et comment je conçois ma propre existence. Il peut alors m'arriver de réaliser qu'au lieu de vivre par moi-même, je me suis désespérément accroché à l'autre et que je n'ai cessé de me définir par rapport à lui ou à elle. Fritz Riemann écrit à ce sujet ceci. N'ayant pas véritablement quitté l'enfance, on ne vit que par rapport et en réaction à l'autre, au lieu de vivre par soi-même. Si cet autre vient à disparaître, c'est pour ainsi dire le monde qui s'effondre. On n'a plus personne à qui s'adapter, sur qui se régler, ou dont on ne puisse satisfaire les exigences autant de choses qui jusque-là avait en quelque sorte comblé l'existence. Ces personnes ne vivent pas par elles-mêmes, mais elles se fondent dans la vie des autres. Elles n'ont pas vraiment le sentiment de renoncer à leur personnalité propre, une notion qui leur est étrangère. Songer à l'éventuelle perte de l'être aimé, cela les incite à découvrir qui elles sont réellement et de vivre par elles-mêmes. Les couples doivent donc se familiariser avec l'idée que l'un précédera l'autre dans la mort, le livrant ainsi à une situation inconnue dont il devra évidemment s'accommoder. Certains s'accrochent si frénétiquement à l'autre qu'ils ne parviennent pas même après sa disparition à lâcher prise. J'ai connu un homme, quand son épouse est décédée, il a continué de mettre la table pour le petit déjeuner le matin, la tasse de son épouse défunte, la sous-tasse, la petite cuillère, le couteau, et il lui parlait comme si elle était vivante. Évidemment, il s'est totalement retiré de toute vie et il vivait plus qu'avec une morte qui n'était même pas présente. Voyez-vous, le détachement de l'être aimé est bien entendu douloureux, et seule une longue période de deuil permet d'établir avec lui, avec elle, une relation nouvelle et intime. D'autres confondent le deuil avec le culte des morts. Je viens d'en expliquer un exemple, agissant comme si rien n'avait changé, comme si l'être aimé était toujours là. Et ce n'est pas seulement l'exemple que je vous ai donné, il y en a beaucoup d'autres. On serait étonné. D'autres encore se jettent à la hâte, et ça c'est encore autre chose, dans une nouvelle relation, afin de remplacer celui ou celle qui a disparu. C'est pour elles-mêmes qu'elles ont besoin d'un autre, ou plus exactement, de la place que ce dernier ou cette dernière occupe dans leur vie. Le compagnon devient donc ainsi, pour ainsi dire, interchangeable dès lors qu'il n'est là que pour permettre à l'autre de mener une existence inchangée, lui épargnant ainsi la tâche de devenir un individu à part entière. Ces réactions, aussi compréhensibles puissent-elles être, ne mènent toutefois pas très loin. La vieillesse exige de nous que nous prenions et que nous apprenions surtout à être de plus en plus un peu seuls. Le détachement de l'être aimé, cela me plonge dans une profonde solitude, bien sûr, que je dois endurer, et j'en sais quelque chose, afin d'accepter à moi-même et de découvrir ma propre existence, surtout que mon épouse est morte il y a déjà 25 ans par erreur et négligence médicale. Croyez-moi, j'ai presque pété les plombs, même en étant un croyant fervent en Jésus-Christ. C'est alors seulement que je peux envisager une nouvelle relation éventuellement. C'est pas mon cas. En me précipitant, je ne fais que masquer ma solitude, infligeant à un autre ou à une autre la tâche ingrate de la combler. Afin de réussir le deuil, je dois traverser différentes phases. La première consiste à prendre congé de l'être aimé. En mon for intérieur, je dois lui faire mes adieux et le ou la laisser partir. Jamais plus je ne le ou la serrerai dans mes bras, ni ne l'embrasserai. Jamais plus je ne ou la pourrai le toucher ou la toucher, ni lui parler. La seconde phase du deuil est souvent marquée, on peut dire, par un sentiment de révolte. Je refuse d'admettre la perte de l'autre. Je dois passer par ces moments de rébellion et ne pas réprimer la douleur éprouvée, celle-là même qui, s'il peut arriver qu'elle me plonge dans le chaos, me conduit à la troisième phase du processus, c'est-à-dire la paix intérieure et la découverte au fond de mon âme de nouvelles perspectives. Une fois détaché de l'autre, je peux instaurer avec lui, avec elle, une relation différente, parce que je ne m'accroche plus à lui ou à elle. Le défunt peut ainsi devenir un compagnon d'âme et me révéler toutes sortes d'aptitudes et de dispositions qui, tapis au fond de moi, ne demandent que à s'épanouir. Voyez-vous, il y en a qui ont de la peine également de se détacher de la sexualité. On croit que c'est une blague, mais c'est vrai. Beaucoup continuent, en vieillissant, de vivre avec ferveur et bonheur l'érotisme de la sexualité. Il faut, croyez-moi, cesser de croire que celle-ci s'engourdit avec l'âge. Et ça, c'est un fait. Il ne faut pas croire que ça n'aura jamais lieu. Non. Il arrive que des personnes âgées peuvent parfois même tomber amoureuses, mais qu'elles n'osent jamais en parler. Le refoulement et la suspicion dont elle fait l'objet dans plus d'un cercle religieux ont éloigné beaucoup de la sexualité, d'où l'importance, quand vient l'âge mûr, de se repenser toutes ces choses. Il existe, croyez-moi, beaucoup de façons de vivre sa sexualité une fois franchi le seuil de la vieillesse. Il n'est en la matière point de norme. Une chose est certaine, notre rapport à la sexualité se révèle avec l'âge. Certains sont obnubilés par leur vie sexuelle et sentent dans le même temps que cette source de plaisir tend à se tarir complètement. Alors ils se rabattent sur des formes pré-génitales de l'assouvissement des pulsions, reportant sur l'alimentation tout leur entière attention ou sur certaines boissons. Ce que l'on a mangé et comment on l'a mangé, ce qui est digeste et ce qui ne l'est pas tellement, ça devient le centre des conversations et il n'est pas rare de voir des vieillards se transformer même en voraces, comme s'ils craignaient d'être privés ou comme si seule la nourriture était encore digne d'intérêt. Évidemment, ils ne pensent même pas à leur âme qui aurait besoin, à leur spiritualité qui aurait besoin d'être totalement changée. Oui, c'est sérieux, car il faudrait se préparer spirituellement à rencontrer tôt ou tard son Dieu et donc s'intéresser à ce que veut dire être sauvé, pouvoir comprendre que nous tous on était des tristes pécheurs et que on doit être sauvé radicalement et être racheté par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous sauver. Chers amis, face aux troubles du comportement sexuel, il convient de redécouvrir la quintessence de la sexualité. Car avec l'âge, l'exaltation amoureuse se transforme en tendresse. C'est cela, cet amour qu'on a pour l'autre, devrait pouvoir se transformer totalement en véritable tendresse. Beaucoup de gens âgés donnent le sentiment d'avoir intégré la sexualité à cette nouvelle étape de leur existence. Prenant au sérieux leur corps, ils en prennent également soin. À l'inverse, beaucoup de ceux qui se détournent de la sexualité se négligent et se laissent aller. La négligence est toujours le signe d'un rapport malsain à la sexualité. Il ne s'agit pas de refouler celle-ci, mais d'être attentif à sa transformation, afin d'accepter et d'accéder à la maturité sexuelle. Il est nécessaire de se détacher en partie des pulsions et de pénétrer l'essence même de la sexualité, c'est-à-dire un amour qui doit devenir véritable. Oui, beaucoup plus profond et beaucoup plus vrai. C'est moi qui le dis. Excusez-moi. Et devrait pouvoir transformer tout cela en tendresse, de complicité et d'intimité. Et c'est alors que le don mutuel de plaisir et autre forme d'expression de la tendresse s'enrichissent d'une profonde, on peut dire, d'une profondeur toute nouvelle. Donc, en plus, certaines personnes, il est vrai, ont de la peine à se détacher du pouvoir. Ah, ça c'est encore autre chose. Les gens âgés ont souvent peine à se dépouiller de leur pouvoir et de leur influence. C'est le cas de certains hommes politiques qui étaient très importants et qui sont conscients de leur propre valeur. Ils répugnent à abandonner leurs fonctions. Dans les entreprises familiales, on observe souvent que le père rechigne à confier ses responsabilités à son fils, même lorsque ce dernier est déjà désigné comme son successeur, il arrive que son père ne le laisse pas agir à sa guise. Et c'est ainsi qu'éclatent d'innombrables conflits qui ne parviennent jamais à se défaire de sa puissance, cherche à compenser son énergie amoindrie, il faut le reconnaître, par des efforts toujours plus accrus, voulant ainsi prouver aux jeunes qu'il est encore le maître. Cependant, cela accentue non seulement le fardeau moral, mais aussi le risque d'échec, car la défense d'une position, l'obsession de ne pas échouer, finissent parfois par l'emporter sur la tâche à remplir, pouvant engendrer de nouvelles erreurs d'appréciation. Ce fardeau moral supplémentaire provoque ainsi souvent, ou du moins peut favoriser les malentendus et par la suite des maladies cardiaques pour celui qui s'accroche trop. Plus le vieil homme s'accroche à son pouvoir, plus il s'entoure d'ennemis, qu'il le veuille ou pas. Les plus jeunes se rebellent contre lui, et c'est alors qu'il va droit à la catastrophe, incapable de déléguer son pouvoir de son plein gré et en toute confiance, il se le voit arraché de force par la mort ou par la rébellion des plus jeunes. Lorsque les vieux sont chassés de leurs fonctions, un départ honorable n'est plus guère possible. Lâcher prise, cela ne signifie pas cesser d'exister. Bien au contraire, renoncer à sa puissance, cela permet souvent de s'épanouir en donnant à son existence une orientation toute nouvelle. Pour terminer notre étude d'aujourd'hui, disons que nombre de personnes âgées sont tout à fait disposées à renoncer au pouvoir. Mais dès lors que la chose se concrétise, elles en éprouvent la difficulté. Désireux de lâcher du lest, un homme d'affaires d'une soixantaine d'années, a confié à son fils la pleine responsabilité de son entreprise. Mais c'est en voyant les gens passer devant son bureau et entrer dans celui de son fils qu'il a senti combien cette situation le faisait vraiment souffrir. Lâcher prise, bien qu'il l'avait sciemment voulu, s'avérait donc beaucoup moins facile qu'il ne se l'était imaginé. Cessant d'être sollicité et tenu au courant, il a pris conscience de la difficulté qu'il éprouvait à se retirer réellement. Assumant sa décision, il a souffert en silence jusqu'à ce que la transformation intérieure puisse s'opérer et qu'il consente du fond de son cœur à lâcher prise, pouvant ainsi jouir enfin de la liberté acquise. Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière et je vous mettrai ensuite un ou deux chants d'un lointain passé, 1965, chanté par Johnny Cash. Et il y a aussi des chants de Jim Reeves. C'est vieux tout cela. Mais je voudrais d'abord vous lire une strophe d'un très ancien cantique. Je veux chanter de tout mon cœur, de mon sauveur l'amour fidèle, car chaque jour il renouvelle pour moi les dons de sa faveur. Il m'a sauvé par son pouvoir, il m'a lavé de mon offense. En lui je mets ma confiance, et son secours est mon espoir. Prions. Ô Dieu, qui t'appelle le Dieu fort, le grand, puissant en force et magnifique en conseil. Nous te bénissons de ce que tu es aussi un Dieu pitoyable, miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. Si tu nous as parlé dans ta colère, Seigneur, tu nous as aussi attirés par des cordeaux d'amour, et tu as eu pitié de nous dans tes grandes compassions. Tes compassions se renouvellent chaque matin, et ta fidélité est grande. Nous savons que tu es notre Père, et que nous sommes tes enfants, parce que celui que tu as sacré roi sur Sion, tu l'as aussi livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Seigneur Jésus, toi que tous les anges de Dieu adorent, qui as été mort mais qui est maintenant vivant, vivant au siècle des siècles, règne sur nos cœurs et pénètre-les du sentiment de ton amour, afin qu'ils se donnent à toi sans réserve et sans partage. Que de fois nous laissons la chair et le péché reprendre sur nous l'empire qui n'appartient que à toi seul. Oh oui, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous nos fautes, et daigne-nous accorder, dans le sentiment de ce pardon, un repos qui renouvelle nos forces pour ton service. Que ta grâce et ta paix soient avec nous et avec tout ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Et maintenant, je vous mais quelques chants, comme j'ai dit, d'un lointain passé, et en ce temps-là, il n'existait pas encore de CD.
I got a home so much better waiting for me over there. I got a friend that I can lean on,
And I feel stronger just knowing that he cares. I got a fire, gonna keep it burning. I got a light, I'm gonna let it shine. Got me a prayer wheel, gonna keep it turning. And I believe we'll be together. Hallelujah, when we reach the other side. There'll be a day of rejoicing, and it will last forever. Over there,
over there,
over there,
over there.
The choice is yours, and you can make it if you want to live forever. Over there,
over there,
over there,
over there.
There'll be no crying, no more dying. All God's children will be satisfied. I believe we'll be together. Hallelujah, when we reach the other side. He gave you love now to love your brother. He gave you a bell, so let it ring. He gave you a song, better keep on singing. For you'll be known by the songs that you sing. He gave you a fire, keep on burning. He gave you a light, better let it shine.
Let it shine.
He gave you a prayer wheel, just keep on turning. And I believe we'll be together. Hallelujah, when we reach the other side. There'll be a thing of rejoicing, and it will last forever. Over there,
over there,
over there,
over there.
The choice is yours, and you can make it if you want to live forever. Over there,
over there,
over there,
over there.
There'll be no crying, no more dying. All God's children will be satisfied. Yes, I believe we'll be together. Hallelujah, when we reach the other side.
Hallelujah, hallelujah. Over there, over there.
I believe we'll be together. Hallelujah, when we reach the other side. Yes, I believe we'll be together. Hallelujah, when we reach the other side.
Yeah. your life you've lived the center the right way. You've never tried, you're drifting away. You're drifting away. When you come to cross the river and you haven't lived with God, you're drifting away. You're drifting away. You're drifting away. You're drifting away. On down the dark river, I'm sorry to say, drifting away. You're drifting away. Don't wait too long to let Jesus hear you pray. There's a dark rolling river takes you to the sinking sand. You're drifting away, you're drifting away. When you come to cross that river, Jesus knows you need his hand. You're drifting away, you're drifting away. You're drifting away, you're drifting away. On down the dark river, I'm sorry to say, drifting away,
drifting away,
you're drifting away,
you're drifting away.
Don't wait too long to let Jesus hear you pray.